Bon, ben, vous venez d'entendre Gilles Talbot, propriétaire de Rafting Nouveau Monde. Il a sa version. Tu sais, c'est quand même pas mal de terrain. Là, on parle à peu près de 600 acres. On est rendu à 24, 25 millions de pieds carrés. Hydro-Québec, est-ce qu'on est prêt à morceler un peu? Il semble que non, selon M. Talbot. Ben, on va avoir la réponse claire avec Louis-Olivier Batty. Il est porte-parole d'Hydro-Québec. M. Batty, bonjour.
Oui, bonjour, M. Lecan.
Dites-moi, eux, ce qu'ils demandent ou ce que l'entreprise demande, c'était quelques acres tout au plus. Vous, vous n'êtes pas prêt à céder une partie du terrain, là. C'est une vente totale des 600 acres, c'est ça qu'on comprend?
Oui, ben c'est ça. Évidemment, nous, on veut pas pénaliser là, les entreprises de rafting là, qui ont un droit de passage sur nos propriétés. Là, ça fait plus de 30 ans, en fait, que Hydro-Québec a consenti un droit de passage pour qu'ils puissent accéder à la rivière Rouge. Donc, c'est sûr qu'on on souhaite pas les pénaliser, mais la réalité est que lorsqu'on vend un terrain, et nous, donc, ce qu'on veut, c'est vendre ces terrains-là, on veut pas avoir, là, on veut évidemment que les terrains soient libres de tout droit, qu'il n'y a pas de contraintes pour un futur acheteur et qu'ils puissent pouvoir acheter l'ensemble du terrain. Donc, c'est sûr que c'est notre souhait.
Mais quand vous dites libre de tout droit, c'est curieux. Moi, j'ai une propriété où est-ce que Hydro-Québec a un droit de passage sur mon terrain. Donc, vous, vous avez des droits sur des terrains, mais vous ne voulez pas que le futur acheteur de votre terrain en ait.
Ben, oui, mais ça c'est un peu normal.
Paradoxal, si non?
Ben, non, mais je comprends votre point, mais si vous avez une propriété, évidemment, vous allez vouloir que cette propriété-là, elle soit idéalement libre de tout droit. C'est sûr qu'elle a une meilleure valeur en ce sens-là pour un futur acheteur. Et nous, c'est ce qu'on souhaite également. Oui, comme vous le mentionnez, Hydro-Québec, une compagnie là, qui offre le service d'électricité, on a des ententes et des servitudes avec plusieurs de nos clients là, pour pouvoir avoir un droit de passage sur leur terrain, évidemment, pour un service essentiel qui est l'électricité. Mm-hmm. Mais dans le cas là, de la vente des terrains qu'on souhaite faire, effectivement, là, nos experts là, nous confirment là, que c'est évidemment mieux qu'il n'y ait pas là, de droits acquis sur ces terrains-là pour que un futur acheteur là, puisse en profiter. Mais soyons clairs, là, nous, ce qu'on veut, c'est que ces terrains-là puissent continuer à servir là, pour des fins idéalement publiques. Là. Alors, on comprend là, que les compagnies de rafting, elles doivent se retourner et voir là, quelles vont être leurs possibilités. C'est sûr qu'elles pourront voir soit évidemment à faire une proposition pour acheter ces terrains-là, soit à s'entendre avec les futurs acheteurs là, pour avoir les mêmes droits qu'Hydro-Québec leur avait consenti.
Donc, s'il y a des droits de passage, ça fait baisser la valeur des terrains. Ça veut dire que moi, sur un terrain que je possède, ben Hydro-Québec, avec son droit de passage, fait baisser la valeur de mon terrain.
Mais c'est un peu quand même difficile là, de comparer les deux types de droits ou de servitudes. Là, vous parlez d'une servitude qu'Hydro-Québec a sur un terrain. Quelqu'un là, qui vendrait son terrain, mais ça, évidemment, on a des milliers là, d'ententes ou de droits de servitude, ce type de servitude-là. Là, nous, ce qu'on parle, c'est des compagnies, des entreprises récréotouristiques qui ont un droit de passage pour pouvoir accéder à la rivière. Oui, d'avoir ces droits de passage-là, nous, évidemment, on leur a consenti là, pendant de nombreuses années. On les a informés là, en début d'année là, que le bail, on allait mettre fin à leur bail au 31 décembre 2019. Mm-hmm. Donc, pour la saison actuelle 2019, ils ont encore ces droits-là. Mais évidemment, pour la prochaine saison, ben là, on veut déjà là, les prévenir. Là. Puis de toute façon, ils sont au courant. Là, ça fait plus de 3 ans, là, c'est connu dans le milieu. Là, ça fait 3 ans là, qu'on a mis ces terrains-là en vente et qu'on essaye de les vendre. Donc, c'est pas non plus une surprise là, de leur côté. On comprend évidemment leur déception et le fait là, qu'ils veulent trouver un moyen là, d'assurer la continuité de leurs activités. Mais on pense là, que nous, pour que la vente se fasse, idéalement, là, il faut qu'il n'y ait pas de droit là, de passage là, sur les terrains qu'on va vendre.
T'sais, comprenez-moi bien, M. Battu, je vous vise pas personnellement. Vous, vous êtes le porte-parole. C'est pas vous qui avez mis la pancarte Rémac sur le bord de la rivière Rouge. On s'entend là-dessus. Mais c'est quand même un peu spécial parce qu'Hydro-Québec, comme société d'État, commandite nombre d'événements à travers la province. Et là, dans le fond, ce serait une forme de commandite vers une activité. Puis moi, je connais pas ça, le rafting, là, mais M. Talbot me disait que c'est une rivière parmi les plus prisées au monde en termes de rafting. Et peut-être à cause de un manque de souplesse d'une société d'État qui veut pas perdre quelques milliers de dollars, ben, préfère quasiment faire, je ne sais pas, moi, que ce soit la décrépitude ou que ce soit carrément l'abandon de ce sport-là sur une rivière-là. T'sais, d'un côté, vous donnez de l'argent en commandite, puis de l'autre côté, ben, vous seriez prête à anéantir, si on veut, une activité qui est là depuis presque 40 ans.
Comme je vous dis, là, on comprend très bien les préoccupations là, des entreprises de rafting, mais on pense que elles ont du temps là, devant elles pour justement regarder est-ce que eux il y a une possibilité d'achat, peut-être que c'est pas le cas, ou en tout cas de vraiment de se tenir au courant et avec les futurs acheteurs de peut-être justement voir pour avoir le même type d'entente. Alors, faut comprendre que nous, pourquoi on vend ces terrains-là, c'est des terrains donc qu'on a acquis dans le passé là, parce qu'à l'époque, là, les entreprises qui produisaient de l'électricité avaient en général l'habitude là, d'acquérir les terrains en bordure des rivières. Nous, ces terrains-là, ils ne sont pas utilisés par Hydro-Québec. Donc, c'est sûr qu'on veut les rentabiliser. Hein. De toute façon, ça crée de la richesse pour Hydro-Québec. Vous savez qu'on remet 75% de nos profits au gouvernement du Québec. Donc, ça crée de la richesse pour l'ensemble des Québécois. Mais ça crée aussi, évidemment, de la richesse là, pour du développement économique dans la région. Donc, il faudra voir comment ces terrains-là seront utilisés. Nous, c'est sûr qu'on veut favoriser à ce que ces terrains-là continuent à avoir une utilité publique. Mm-hmm. Ça fait partie là, des conditions de la vente. Donc, on recherche pour qu'elles soient, qu'elles continuent à être utilisées à des fins publiques. Mais il faudra voir là, au bout du compte là, qu'est-ce qui va arriver.
Acheter 600 acres de terrain, c'est une infime partie de la population qui peut se payer ça. Je sais pas c'est combien de pieds carrés, mais mettez-le à une pièce le pied carré. En partant, c'est quasiment 25 millions. Si vous avez fixé une date de fin de bail au 31 décembre, se peut-il que vous ayez déjà une entente dans la poche arrière?
Écoutez, pas à ce stade-ci, non. Parce que nous, l'habitude qu'on a lorsqu'on a des terrains, la première offre qu'on va faire, c'est vers les services publics. Donc, on va contacter la municipalité, la MRC, savoir si elles sont intéressées à acquérir ces terrains-là. Et si par la suite, on n'arrive pas à une entente là, ou qu'il n'y a pas d'intérêt, ben là, on va regarder pour un acheteur dans le marché, quelqu'un qui va s'intéresser à acquérir ces terrains-là.
Parfait. Deuxième sujet, on est au début avril, les mauvais payeurs, ben, c'est le cas à tous les années, là, risquent de se faire débrancher. Comment ça fonctionne tout ça?
En fait, donc, faut savoir que du 1er décembre là, au 31 mars ou au 1er avril, il y a ce qu'on appelle le moratoire hivernal. Donc, c'est une période où les gens qui ne payent pas leur service d'électricité ou qui n'ont pas la capacité de payer ne sont pas débranchés. Donc, c'est en vigueur là, si c'est votre résidence principale qui est chauffée à l'électricité, c'est important de le préciser. Et à partir du 1er avril, Hydro-Québec est en droit, si les gens n'ont toujours pas pris d'entente avec nous. Évidemment, nous, ce qu'on favorise, c'est que les gens nous appellent pour prendre une entente qui va respecter leur capacité de payer. Mais ça, c'est la première condition. L'idéal, c'est vraiment de nous appeler, de prendre une entente. Mais si les gens, donc, ne prennent pas d'entente ou refusent de payer, eh bien là, Hydro-Québec a le droit, à partir du 1er avril, d'interrompre le service. Évidemment, les températures sont encore froides. Là, pour l'instant, on n'a pas d'intention avant le 8 avril là, de faire de débranchement. On va voir comment la météo là, va évoluer dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais en gros, là, oui, on pourrait commencer à le faire là, à partir du 1er avril.
Quelle est la tendance des 5-10 dernières années en matière de débranchement? Croissance, neutre, décroissance?
Ben écoutez, j'ai les chiffres pour les trois dernières années. En tout cas, on voit une légère décroissance. Là, si on remonte à 2016, on avait eu des interruptions de service là, chez environ 49 000 clients. En 2018, c'était 43 000. Donc, on voit qu'il y a une petite décroissance là, en termes d'interruptions de service.
Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Dernier sujet, vous avez invité des journalistes et vous aviez aussi invité notre salle de nouvelles. Bon, question d'horaire, c'était plus difficile, là. Vous faites c'est la première fois que j'entendais cette expression-là concernant la neige, du carottage, c'est-à-dire que vous creusez un trou dans la neige et puis vous analysez la situation. Vous analysez quoi, en fait?
En fait, nous, ce qu'on veut mesurer, c'est vraiment la quantité de neige qui est au sol. Alors, on fait vraiment de l'échantillonnage ou du carottage pour déterminer il y a combien de neige au sol. Et ça, ça nous aide à prévoir, évidemment, en prévision de la crue. On peut s'attendre à ce qu'il y ait combien, là, en termes de fonte de neige, combien de litres d'eau. Là, c'est des grandes quantités, évidemment. Là, combien vont se déverser vers nos réservoirs, vers les rivières, afin de vraiment bien planifier et éviter, évidemment, toutes les inondations là, qu'on a malheureusement connues en 2017 qui ont affecté là, évidemment un grand nombre de personnes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une bonne idée là, on s'attend à combien là, de neige là, qui va fondre au cours des prochains jours.
Faites-vous ça depuis longtemps?
On fait ça chaque année, donc dès le début du mois de mars. Finalement, comment on procède? C'est qu'on va évidemment analyser les quantités de neige, mais également on va abaisser au maximum les réservoirs, donc l'eau dans nos réservoirs, que ce soit Baskatong, Dozoa, Kabonga, pour justement faire place à la fonte des neiges. Donc que nos réservoirs puissent accueillir le maximum d'eau de la fonte des neiges, mais nos infrastructures, là, je vous dirais, contrôlent environ à peu près 40% de la fonte là, lors de la crue. Le reste, l'autre 60%, ça va être les précipitations qu'on va avoir au printemps. Ça va être les conditions aussi. Hein. Est-ce que cette neige-là, elle va le fondre d'un coup parce que les températures vont augmenter subitement, ou est-ce que ça va être progressivement, ce qui évidemment favorise évidemment une évaporation naturelle de l'eau, une fonte beaucoup plus étalée, là, si on veut, dans le temps. Mm-hmm. Alors, c'est ça qu'on surveille. Si on remonte à 2017, on avait eu des, je vous dirais, là, c'était un peu de pardonnez-moi l'expression anglaise, de perfect storm. Hein? On a eu en une semaine à peu près les quantités qui tombent normalement en deux mois là, dans la région de pluie. À un moment où la neige avait peu fondu parce qu'il faisait encore froid, le sol était gelé, donc n'absorbait pas l'eau, et tout ça a fondu d'un coup, donc ça crée des conditions vraiment particulières et extraordinaires. Cette année, on n'entrevoit pas du tout le même scénario, bien qu'on ait autant de neige là, que dans les deux dernières années, en 2018-2017, on a autant de neige, mais ça fond tranquillement, la neige s'évapore et on voit pas là, de grandes chutes là, de précipitations là, au cours des prochaines semaines. Donc, pas du tout un scénario, là, on tient à rassurer les gens, pas du tout un scénario comme celui de 2017.
Oui, parce qu'en 2017, je pense qu'il était tombé quelque chose comme 100 mm en 48 heures à un certain moment donné. Là, c'était du jamais vu. Si on avait transformé ça en neige, pardon, ça aurait donné à peu près un mètre en 48 heures. Ça aussi, ce qui est assez exceptionnel. Ben, merci, M. Batty, pour les réponses à mes questions. Bonne journée à vous.
Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée.
Louis-Philippe Batty, les porte-parole d'Hydro-Québec.